Les voies du bien-être.
L'émission qui vous emmène à la rencontre des médecines traditionnelles et alternatives.
Une émission qui crée du lien entre vous et les professionnels de la santé.
Présentée par Sandrine Philippe Charrère
sur Radio Bartas 107 FM.
Bonjour chers auditeurs de Radio Bartas. Bienvenue dans votre émission Les Voies du Bien-être, l'émission qui cultive la joie. Dans cette émission, aujourd'hui, je reçois Nicolas Moisan. Je l'interview en extérieur, toujours dans nos belles Cévennes. Nicolas excelle dans la géobiologie et dans la transmission. Et il a une pépite en plus dans sa mallette, le Vastu Shastra, un art indien qui peut vous accompagner pour vous réconcilier avec votre habitat. Il nous apportera son expertise pour vous accompagner vers plus de bien-être et d'équilibre avec pédagogie car il était enseignant il y a quelques années. Alors, si vous voulez savoir comment votre maison peut vous aider à retrouver un bien-être, à vivre mieux et faire de votre maison une alliée, restez avec nous. On écoute une chanson, à tout de suite. Bienvenue sur Radio Bartas.
Bonjour tout le monde et bonjour Sandrine. Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ce que tu fais, comment tu accompagnes l'humain. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que la géobiologie ?
Alors, la géobiologie, c'est une discipline qui permet d'étudier, en gros, toutes les influences sur un lieu. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on dort bien, qu'on est en bonne santé ? Et donc ça va à la fois des perturbations qui peuvent venir de phénomènes électriques par exemple, mais aussi dans ce qui se passe au niveau du sous-sol, au niveau de la géologie du terrain, comme les veines d'eau, les failles, ce genre de choses. Et puis il y a une partie un peu plus subtile avec les mémoires des lieux et d'autres phénomènes subtils, les énergies du lieu, etc. Donc vraiment plein de choses différentes, mais qui font que dans un lieu on s'y sent bien, en tout cas.
Alors ça, je sais que c'est scientifique, il y a une approche scientifique à la géobiologie où les ondes comme le Wi-Fi, etc., ça peut perturber la santé.
Oui, c'est une partie qui est de plus en plus présente, en fait, toutes les pollutions électromagnétiques, parce que les technologies se développent énormément, et dans l'habitat en particulier. Donc ça va effectivement la Wi-Fi, qui est pour moi une des plus grandes perturbations, le Linky, des fois des choses très simples comme une lampe de chevet ou un radio-réveil qui est mal branché à côté de sa tête de lit, et bien ça influence sur le sommeil, par exemple. Voilà.
Bien, alors on peut travailler des problématiques de sommeil. On peut améliorer son sommeil en faisant de la géobiologie.
Ouais, j'allais dire que c'est 80% des demandes sont liées à une problématique de sommeil. Et souvent, c'est depuis que je suis sur ce lieu, depuis que je suis arrivé, je dors pas bien et je comprends pas pourquoi. Donc la première, effectivement, en géobiologie, on va faire un état des lieux de ces perturbations. Donc pour la partie électromagnétique, par exemple, il y a des outils. Qui permettent d'avoir des valeurs objectivables, on va dire. Il y a un travail qui va être en radiesthésie, qu'on va travailler sur tous les phénomènes qui sont liés au sous-sol, donc les veines d'eau, les failles, ce genre de choses. Et puis, voilà.
Donc ça peut servir à améliorer son sommeil. Ouais. À quoi d'autre ça peut servir ?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un lieu, ça nous influence énormément. En fait, on fait attention à ce qu'on mange, aux personnes qui nous entourent, à ce qu'on boit, etc., et à faire du sport, à entretenir notre corps. Et en fait, l'environnement dans lequel on vit, il a une influence très forte, donc à la fois sur notre santé, mais notre santé physique, mais aussi énergétique, émotionnelle, la façon dont on sent, et même spirituelle, j'allais dire.
Est-ce que quand on se promène, quand on visite des lieux et que d'un coup on se sent très mal ou on a l'impression qu'on a un poids sur les épaules, ça fait partie de la géobiologie ?
Oui, c'est ça. En fait, quand on arrive sur un lieu, ça peut venir de différentes choses, comme je disais. Mais par exemple, si on a une émotion forte qui se présente au moment où on rentre dans un lieu, ça peut être lié par exemple aux émotions qui ont été vécues dans un lieu et qui sont restées, qui ont imprégné un lieu. Et ça évidemment, ça nous influence aussi. Alors des fois, c'est très fort, dès qu'on rentre, on va le sentir. Puis des fois, c'est un peu plus subtil, c'est avec le temps qu'il y a, la tristesse ou la nostalgie l'agitation qui peut arriver. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler d'un autre exemple en lien avec la santé et la géobiologie ?
Oui, en fait, il y a des lieux qui sont particulièrement nocifs pour la santé, en fait. Et par exemple, les maisons des anciens mineurs, on les a appelées certaines des maisons à cancer, parce qu'on s'était rendu compte que... ils étaient construites de la même façon à chaque étage, sur plusieurs étages. Les lits étaient au même endroit et les personnes développaient des cancers sur les mêmes organes. Et alors, il y avait plusieurs choses, mais il y avait d'abord l'histoire du radon. C'est un gaz radioactif qui est invisible, un inodore. Bon, ça maintenant, c'est quelque chose qu'on connaît quand on va chez le notaire, quand on achète une maison, on doit savoir si c'est des zones à risque au niveau du radon. Et puis en plus, il y avait ce qu'on appelle des failles géologiques qui dégagent un rayonnement naturel, mais qui est très nocif pour le vivant. Alors, c'est vrai pour les végétaux, les animaux, mais aussi pour nous en tant qu'êtres humains. Et justement, ces failles qui passaient à un endroit particulier au niveau des lits, et c'est à ces endroits-là, alors sur le temps, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, mais au bout de 10-20 ans, de rester au même endroit, ça pouvait vraiment fragiliser les personnes sur certains organes, par exemple.
Très bien, alors au final, soit on travaille sur sa maison, on l'assainit, soit on déménage.
Alors, la plupart du temps, il y a des choses qui sont possibles de faire. Alors, par exemple, les veines d'eau, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans 80% des expertises. Une veine d'eau, alors évidemment, on ne va pas la déplacer. Mais par contre, le rayonnement qui est engendré par une veine d'eau, en fait, à partir du moment où il y a un passage, il y a une friction donc au niveau de la matière, et cette friction, elle va à nouveau avoir, elle va avoir un rayonnement. Et quand on est à l'aplomb d'une veine d'eau, en fait, souvent, on va dormir, mais on va se réveiller fatigué. C'est quelque chose qui va drainer énergétiquement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve très régulièrement. Et alors, l'idéal, c'est de déplacer le lit pour pas qu'elle soit sur la veine d'eau, mais des fois, c'est pas possible. Et là, après, il y a plusieurs écoles de géobiologie. Il y a des gens qui vont travailler avec des pierres levées, par exemple, qui vont travailler avec des fers à béton, ce genre de choses, qui vont faire comme de l'acupuncture du sol pour neutraliser ces rayonnements-là.
Et quand on a une veine d'eau à la porte d'entrée de sa maison, par exemple les églises, souvent elles ont une veine d'eau.
Alors après, tout ce qui est église et chapelle, en fait, il y avait un savoir-faire sacré, on va dire, donc c'est encore une autre dimension.
On va y aller tout à l'heure.
Ouais.
Mais si dans sa maison on a l'entrée une veine d'eau.
Moi j'allais dire une veine d'eau à l'entrée, ça va drainer énergétiquement. C'est des fois, souvent, quand ça traverse en plein milieu comme ça une maison, ça va plomber un peu l'atmosphère, on va dire. Et quand on travaille dessus, souvent, ça redonne tout de suite, on retrouve une vitalité sur le lieu.
Qu'est-ce que tu fais concrètement alors ?
Alors, comme je vous disais, on peut travailler à la fois avec des pierres levées, par exemple, c'est le principe des menhirs, on va utiliser la polarité de la pierre pour envoyer en fait ce rayonnement-là. Mais moi, je travaille de plus en plus avec des outils de Vastu Shastra, justement, on travaille avec des marbres, des cubes de marbre, et qu'on va placer d'une certaine façon à certains endroits. Et en fait, on neutralise le rayonnement, le rayonnement de ces passages d'eau.
C'est comme si on déviait énergétiquement.
Je dirais que c'est comme une protection en fait à la surface, une neutralisation du phénomène, enfin du rayonnement en tout cas. Voilà. Bon, évidemment, on ne déplace pas la veine d'eau. Ça, on ne sait pas faire.
On ne déménage pas les maisons.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des risques à pratiquer la géobiologie chez soi ?
Alors, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est, comme toute discipline, c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend du temps pour vraiment comprendre les subtilités de cette discipline-là. C'est pas quelque chose qui s'apprend en quelques heures ou en quelques jours. C'est, par exemple, personnellement, moi, j'ai accompagné aussi des géobiologues à des moments. C'est là que vraiment j'ai pris confiance, que ça prend du temps, comme n'importe quel métier. Hein. Et parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus passer des formations en deux jours en ligne, et on a un diplôme de géobiologue. Et pour moi, ça, c'est dangereux, parce qu'on touche à des phénomènes qui sont subtils et qui sont interdépendants les uns avec les autres aussi. Et donc il y a vraiment c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit.
Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement toi de ton parcours et comment tu as appris?
Moi j'étais enseignant en école primaire et j'ai eu un projet de construire ma maison personnellement et au moment où j'ai acheté le terrain, il y a une amie sourcière qui est venue pour voir s'il y avait de l'eau sur mon terrain. Et j'ai pris les baguettes et ça m'a tout de suite parlé. Et c'était rigolo d'ailleurs parce qu'il y avait ma mère qui était là à ce moment-là et elle m'a dit que mon grand-père était sourcier à ce moment-là. Et je ne savais pas.
Tu l'as appris?
J'ai appris à ce moment-là. Et donc voilà, et ça commence, j'ai commencé à utiliser un peu les baguettes dans ce cadre-là. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis formé en géobiologie pour moi, pour mon projet au départ. Et c'est-à-dire que alors, tout ce que j'apprenais, j'essayais de le mettre en pratique chez moi. Et par exemple, moi j'ai une maison en bois, en ossature bois, et c'est des maisons qui sont particulièrement vulnérables en termes de pollution électromagnétique. Et donc, évidemment, moi, ma formation sur cette partie-là, c'était un mois avant que l'électricien arrive, je lui ai fait tout changer. Voilà. Et bon, il n'était pas content sur le coup, mais j'étais content d'avoir fait. Voilà. Donc voilà, c'était au départ pour moi, pour mon projet. Et puis c'était une maison quand même qui était assez résistante à plein de niveaux. Donc en fait, j'ai dû continuer à creuser, à chercher avec différentes façons de travailler en biologie, en géobiologie, parce que les choses que j'avais apprises, ça ne suffisait pas. Et c'est ce qui m'a amené aussi à continuer, par curiosité aussi, d'apprendre de plus en plus. Et c'est là que je suis tombé sur le Vastu Shastra, justement. Donc cet art sacré indien de l'habitat. Et voilà, qui m'a tout de suite aussi passionné. Voilà,
dans mon parcours. Alors j'imagine que tu es allé en Inde.
Alors j'y suis allé il y a 20 ans dans un autre cadre, mais je me suis formé avec mes enseignants qui sont à la moitié en Inde et à la moitié en France. Et en fait, moi je les ai accompagnés principalement en France et en Europe, on va dire, quand ils étaient placés pendant un an et demi. Je les ai accompagnés sur des harmonisations. Donc là aussi, c'est vraiment une discipline subtile et qui se transmet, enfin pour moi, pour vraiment qu'il y ait cette qualité, un peu comme les arts sacrés indiens anciens, qui se transmettaient pendant quelques semaines de stage, mais en accompagnant un enseignant qualifié. Hein, et puis, voilà, petit à petit, jusqu'à ce qu'à un moment, ils vous disent « c'est bon, tu as compris, et tu peux aller voler tes proposals ». Hein.
Alors, quand on parle d'harmonisation, tu parles de quoi exactement, hein?
Alors là, c'est du point de vue du Vastu Shastra, peut-être, je peux parler de cette perspective-là. C'est harmoniser le lieu, en gros, entre les personnes qui habitent, les propriétaires ou les locataires, avec le lieu lui-même, la maison, l'environnement dans lequel il est, et j'allais dire avec les lois de la construction universelle, quoi, hein, quelque chose comme ça. Une loi divine universelle, on pourrait dire.
Alors, si je résume, tu me dis si je me trompe, ouais. La géobiologie, avec tous ses appareils instrumentaux, elle va aller aider à assainir l'habitat. Ouais. Et le Vastu Shastra, avec l'art divinatoire de l'Inde, connu depuis des millénaires, va aller un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire que ça va plus loin dans la spiritualité?
Voilà, il y a une dimension spirituelle qui est présente dans le Vastu Shastra. Et en fait, au départ, le Vastu Shastra, c'est l'architecture sacrée des temples anciens, mais qui a appliqué, en fait, ces lois-là, ces principes de construction. Alors, il y a des choses qu'on va retrouver dans l'architecture sacrée en Europe aussi, hein, qui a vraiment des ponts à faire, mais c'est une tradition qui est restée très vivante. Aujourd'hui encore, par exemple, en Inde, les gens, quand ils font construire une maison, ils font appel à un consultant Vastu. Donc, c'est vraiment des savoir-faire très, très, très subtils, mais très anciens, mais qui sont restés vivants. Et c'est ça qui m'a plu, moi, aussi, dans cette discipline-là. Pour moi, le Vastu Shastra va plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, la géobiologie, on va assainir les lieux, d'une certaine façon. Toutes les perturbations, on va essayer de neutraliser, de faire qu'il n'y ait pas de perturbations trop influentes, voilà, qui viennent perturber les lieux. Alors, en Vastu Shastra, on va prendre en compte cette partie-là, mais on va travailler sur d'autres aspects. Et en particulier sur, par exemple, l'aspect structurel des bâtis, c'est-à-dire les formes, les proportions, l'orientation cardinale. Tout ça, c'est des choses qui ont une influence aussi sur la façon dont on sent dans un lieu. Et sur ce qu'on appelle la circulation, on va travailler sur la circulation du prana, c'est l'énergie vitale, c'est le chi en feng shui. Hein. Et en fait, le Vastu Shastra, c'est l'ancêtre d'une certaine façon du feng shui. En fait, il y a le même lien, on va dire, entre les médecines indiennes, l'Ayurveda, et les médecines chinoises, qu'entre le Vastu Shastra et le feng shui. Alors, il y a des choses qui se rejoignent, il y a des choses qui sont différentes parce qu'elles sont acculturées, etc. Mais dans le feng shui traditionnel, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve avec le Vastu.
Ok, alors toi, tu étais enseignant en primaire, ouais. Tu te formes à la géobiologie au départ pour toi personnellement, ouais. Et tu t'es formé où, hein?
Alors, ben, j'ai commencé à faire des stages d'une semaine, deux semaines, trois semaines avec. C'était l'Institut Pierre Thiroux à l'époque, donc ma formation initiale, on va dire. Et donc, je me suis dit à la fois en Aveyron et en Bretagne. Et puis après, j'ai accompagné aussi deux géobiologues dans le coin. C'est pareil là aussi sur plusieurs mois, on va dire. C'est là que je me suis formé aussi vraiment. Et j'ai cherché, en fait, je voulais vraiment avoir différentes façons de travailler en géobiologie, parce qu'en fait, il y a énormément d'écoles différentes, et de trouver ce qui, moi, dans toutes ces approches-là, me convenait et faisait sens. En fait.
Ouais. Et de là, tu as rencontré le Vastu Shastra.
Voilà. Et là, ça a été une rencontre très forte aussi. Ouais. C'était vraiment. C'était une très très belle rencontre, et surtout avec les enseignants avec lesquels je me suis formé, qui faisaient ça de façon très très authentique. Enfin, pour moi, j'ai fait une première formation, mais ça, la façon dont c'était fait, ça m'a pas parlé. Mais par contre, le fait de pouvoir accompagner les enseignants, etc., de vraiment prendre le temps, hein, ça m'a beaucoup parlé.
Alors concrètement, est-ce que tu te déplaces chez les personnes ou tu fais à distance ?
Non, je me déplace. Pour moi, pour vraiment faire le travail profondément, en tout cas pour moi, je me déplace. Voilà. Alors je me déplace principalement autour de chez moi, là dans le Gard, mais je vais parfois en région parisienne, j'étais à Marseille, j'étais en Vendée, j'étais un peu partout en France.
Et tu viens jusqu'en Lozère vu que tu participais au Salon du Bien-être.
Voilà, pour moi, Lozère, ça reste à côté.
Voilà. Très bien. Donc, quand tu arrives chez les personnes, sur leur lieu de vie, est-ce que tu as des machines avec toi, des appareils ?
Alors, j'allais dire, le premier outil, ça va être notre corps et notre corps physique, notre corps subtil, en fait, la façon de ressentir les choses. Mais après, évidemment, il y a les outils, parce que moi, quand je fais une harmonisation Vastu Shastra, il y a une partie où je fais quand même un diagnostic électromagnétique, par exemple. Que je rajoute ça, parce que pour moi, c'est quand même important de travailler sur cet aspect-là. Mais sinon, dans les outils, alors il y a les outils de détection. Donc là, on va y saisir, par exemple, c'est des baguettes de sourcier parallèles, ce genre de choses, ou un pendule éventuellement. Et puis après, en Vastu Shastra, on va travailler comme outil correctif, on va dire. On va travailler soit avec des cubes de marbre, des petits cubes de marbre qu'on va placer, soit enterrer, soit placer à certains endroits, et des petits carrés de cuivre avec une spirale qui représente justement le prana, qu'on va placer pour créer un circuit énergétique à l'intérieur de l'habitat. Voilà. Et puis il y a aussi, alors de façon traditionnelle, en Vastu, on met ce qu'on appelle un yantra, donc c'est la géométrie sacrée, au niveau de l'entrée. Il y a des yantras spécifiques au Vastu Shastra.
Est-ce que tu peux intervenir quand il y a un projet ou que la maison n'est pas encore sortie de terre ?
Oui, parce qu'en fait, au départ, c'est vraiment un art de l'architecture et de la construction. Mais c'est complètement approprié pour une construction. Après, c'est vrai qu'en Occident en particulier, c'est vraiment un art aussi de la correction de l'habitat qui est déjà existant. Donc la plupart des interventions que je fais, c'est sur des choses qui sont des maisons qui sont déjà existantes. Voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler par exemple une forme de terrain qui va être déstructurée ou qui va avoir une forme qui n'est pas forcément harmonieuse. Là, par exemple, la semaine dernière, j'étais chez quelqu'un qui avait un terrain en forme de triangle avec la pointe au fond du jardin, donc qui fermait. Donc là, énergétiquement, c'était quelque chose qui bloquait, qui créait un peu de l'agitation. Voilà. Et bien, on va redessiner énergétiquement avec les marbres, justement, qu'on va enterrer à certains endroits pour redonner une forme beaucoup plus harmonieuse.
Pareil, plus ronde, tu veux dire ?
Alors, pas ronde. Alors, les formes qui vont être recherchées en Vastu, ça va être principalement le carré ou un rectangle qui est inférieur à 1 sur 2. Le rond, il est associé quand même au mouvement. Donc, c'est pour du point de vue du Vastu, c'est plus de l'habitat éphémère ou pas sur le long terme. En fait, le carré ou le rectangle, il va amener de la stabilité, par exemple.
Alors, qu'est-ce que tu penses des maisons cévenoles ou lozériennes, les anciennes magnaneries en pierre avec le Vastu, hein ?
Souvent, les formes des maisons, elles sont plutôt intéressantes. Il y a plusieurs choses. C'est souvent des maisons qui ont une histoire aussi. Hein. Et avec une histoire forte. Et donc, il y a souvent, pour avoir travaillé quelques fois en Lozère aussi, cette histoire de mémoire, de choses qui est très présente quand même dans ce qu'il a travaillé. Et après.
Tu nettoies du coup ces mémoires ?
Oui, en fait, quand on fait. Alors, il y a plusieurs choses. Quand on fait un Vastu, par exemple, vibratoirement, on amène le lieu à son plus haut potentiel d'une certaine façon. Donc, vibratoirement, il y a déjà un gros nettoyage qui est fait. Hein. Et s'il y a des choses spécifiques à travailler, alors après, il y a des mantras, des choses comme ça. Alors, moi, j'utilise pas les mantras de la tradition indienne, mais moi, ça fait 20 ans que je suis des enseignements bouddhistes tibétains. Donc, je travaille avec ces outils-là sur la partie subtile. En fait, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a souvent un travail important à faire à ce niveau-là. Après, c'est souvent des maisons qui sont reliées à la terre directement, donc avec un ancrage. Et c'est même les matériaux, la pierre, voilà, qui est, il y a des mises à la terre naturelles. Donc c'est, on est en direct avec le réel, avec le concret, hein, dans ces maisons-là. Mais des fois, il faut amener un peu de légèreté. Il faut amener un peu de respiration, de fluidité, de redonner du mouvement aussi à l'énergie un peu. Hein, c'est un peu ça que je...
Oui, c'est des maisons qui sont lourdes.
Et ça peut, voilà. Il y a des avantages, parce qu'en même temps, il y avait quand même, dans les maisons anciennes, un savoir-faire en France, hein, qui s'est perdu. Alors même si ce n'était pas l'art sacré, etc., il y avait certaines notions qui étaient quand même respectées dans la construction et qui s'est oublié dans les années 50, après-guerre, on va dire, avec d'autres matériaux, avec une rapidité dans la construction aussi qui fait qu'on a perdu certaines choses. Mais par exemple, je pense qu'en Lozère, quand il y avait un passage d'eau, il y avait un sourcier qui venait avant et qui venait regarder que le lit soit pas sur une veine d'eau. Donc il y a des choses qui étaient prises en compte quand même aussi.
Oui, on a l'impression qu'il y a eu une amnésie pendant 50 ans ou 70 ans et que là, ça revient.
Et j'allais dire l'amnésie, il y a, donc, sur cette partie-là, et même plus ancienne, parce que sur le savoir-faire sacré, hein, de la construction, donc des chapelles, des cathédrales, etc., j'allais dire c'est à partir de 1500, 1400, bon, ça dépend des gens, tout le monde n'a pas la même perspective, mais il y a vraiment l'art sacré des bâtisseurs qui s'est perdu aussi, parce que c'était des savoir-faire qu'on avait aussi en Occident, évidemment.
Voilà. Donc toi, petit français, tu remets au goût du jour l'art divinatoire indien en France, et ce qui permet d'aller rechercher le sacré qui existait déjà en France pour
peut-être
les habitats.
D'une certaine façon, mais parce que pour moi, c'est un sacré qui est universel. C'est-à-dire que, même par exemple, ce yantra qu'on met à l'entrée, des fois, ça ne parle pas aux gens. Et en fait, j'ai fait mettre d'autres choses. Ça peut être, je sais pas, une statue d'une vierge ou chez quelqu'un qui était de confession musulmane, on a mis une calligraphie avec que Dieu bénisse la maison, ce genre de choses. Donc il y a vraiment des principes qui sont universels, en fait. Et évidemment, qui vont s'adapter même... aux personnes et à la culture. En fait, c'est vraiment une sagesse qui est universelle pour moi. Ouais.
C'est aussi le pouvoir de l'intention qu'on y met.
Bien sûr, ouais, tout à fait.
Alors, pour être allé en Inde, moi, j'ai vu dessiner à la poudre de craie ou à la craie des dessins à l'entrée pour mettre des bonnes vibrations quand
tout
on rentre.
Ouais. Oui, parce que l'entrée, c'est un lieu qu'on soigne particulièrement. Parce que, alors surtout quand on travaille en vastu, on va créer ce chemin énergétique qui commence par le concret, qui est lié au réseau public, on va dire, à la voie publique. Et à l'entrée, c'est là que les énergies vont rentrer. Donc l'information qu'on va mettre à cet endroit-là, elle va influencer l'ensemble de l'habitat. Et d'ailleurs, il y a vraiment un travail très subtil qui se fait au niveau de l'entrée. C'est comme un point d'acupuncture de l'habitat. On travaille avec un petit cuivre et on le bouge de quelques millimètres, on va vraiment changer la qualité vibratoire du lieu. Et des fois, moi, c'est la partie qui m'a le plus impressionné quand j'ai commencé à travailler avec ça. Et c'est là qu'on harmonise vraiment aussi le lieu avec la personne ou personnes qui sont présentes. Et c'est là, enfin, traditionnellement, on dit qu'on travaille aussi sur le dharma des personnes, sur le chemin de vie des personnes à cet endroit-là. Il y a vraiment quelque chose qui s'adapte à la personne pour que ça soit un lieu qui soit soutenant à la fois... j'allais dire physiquement, émotionnellement, etc., mais même sur les projets de vie, sur relationnellement, sur professionnellement aussi, ça peut aider à débloquer des choses à ce niveau-là.
Donc c'est un accompagnement au travers de l'habitat, mais pour la personne.
Exactement.
Aussi.
C'est ça qui est particulier. Alors, à chaque fois qu'on travaille sur l'habitat, on travaille sur la personne d'une certaine façon, mais dans le vastu, c'est beaucoup plus explicite, on va dire. Voilà.
Alors, on a parlé de l'habitat privé. Est-ce que dans le domaine professionnel, ça fonctionne aussi?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai travaillé sur des boutiques, j'ai travaillé sur des lieux de soins, par exemple. Alors, ou c'est même une animalerie, par exemple. J'avais travaillé sur un élevage de chiens. J'ai travaillé sur... En fait, ce qui va changer, c'est effectivement... Il y a des qualités qu'on va rechercher qui sont un peu différentes sur un local professionnel, sur un lieu de soins, de yoga, que sur un habitat privé. Mais des fois, d'ailleurs, j'ai travaillé chez des gens, ils ont leur partie privative et puis ils ont leur partie professionnelle. Mais la façon dont on va calibrer l'énergie va être différente. On ne va pas y mettre exactement la même qualité. Et on va adapter justement à la fonction du lieu, hein, au travail. Et oui, tout à fait, ça s'adapte tout à fait à des lieux professionnels.
Donc tu peux aller dans les entreprises aussi pour
aussi,
harmoniser.
Oui, j'ai travaillé aussi. Ah non, pardon, c'est encore ouvert.
Ouais. Oui, vas-y.
Ou même sur des terrains agricoles aussi, par exemple. Le fait d'harmoniser un maraîchage, j'ai déjà fait ça aussi, des choses comme ça. Pour redonner une vitalité sur un terrain, alors, ou révéler les qualités qui sont déjà là, en fait, c'est plus ça, dans l'idée.
Parce que parfois, il y a des blocages sur des lieux, ça ne marche jamais.
Ça peut être, oui, voilà, des blocages, même par exemple sur des lieux qui n'arrivent pas à se vendre aussi. Ça, encore récemment, là, des gens qui m'appellent parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur maison, on fait un travail, on fait circuler l'énergie, etc. Et tout de suite, la maison se vend derrière. C'est assez magique, ça aussi.
Extraordinaire. Et est-ce que la personne, quand tu mets tes cubes de marbre, elle ressent le changement, hein ?
La plupart du temps, alors chacun avec sa sensibilité, c'est pas systématique, mais j'allais dire plus les gens sont impliqués un peu dans le travail qui est fait, sont présents, et souvent les gens ressentent, ouais. Et d'ailleurs le travail qu'on fait à l'entrée, il faut que les personnes soient présentes parce que c'est aussi en fonction de leur ressenti qu'on travaille. Il y a moi ce que je ressens en tant qu'intervenant, mais il y a aussi la personne. Et c'est un équilibre. Alors des fois, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, des fois c'est moins évident. Mais parfois, c'est la personne qui me dit « là, c'est juste », et pour moi, c'est juste aussi. Voilà.
Alors Nicolas, je sais que tu utilises aussi la visio. Qu'est-ce que tu proposes en visio, hein ?
Alors en fait, moi, je fais en formation, c'est principalement des journées d'initiation à la géobiologie pour apprendre à manier un peu les baguettes, et etc.
Alors ça, c'est pas en visio.
Ça, c'est pas en visio, c'est en présentiel. Parce que c'est... Mais je fais aussi des ateliers, par exemple, sur tout ce qui est pollution électromagnétique. Parce qu'en quelques heures, on peut avoir une notion des principales pollutions, par exemple, qui sont dans l'habitat, et les solutions qu'on peut y apporter la plupart du temps, qui sont des fois très simples aussi.
Tout seul, et on fait ça tout seul, du coup, hein, en autonomie.
Je ne dirais pas qu'il y a forcément les outils de mesure qui sont... Voilà, on ne peut pas avoir tout, mais il y a des choses très simples qui, déjà, peuvent faire une vraie différence au niveau du sommeil, au niveau du... Voilà.
Oui, tu disais déjà le radio-réveil.
Par exemple, ou le téléphone en charge à côté de la tête quand on dort, bon, ben, ça, c'est pas terrible. Alors, il y a deux pollutions. Il y a la pollution du fait que ça soit en charge, et ça, c'est une pollution de basse fréquence. Et puis, le fait qu'il soit, s'il n'est pas en mode avion ou éteint, il y a toutes les pollutions au niveau des hyperfréquences, donc Internet, etc. Et ben, ces deux choses-là cumulées, quand on dort, ben, ça a une vraie influence.
Ouais. Et des fois, on se réveille fatigué, et c'est juste à cause du téléphone qui est branché ou qui est resté allumé.
Ou une lampe de chevet. Alors, il faut savoir, par exemple, que les lampes de chevet, elles ont un sens pour se pencher quand il y a deux broches au niveau du câble électrique. Et si on ne le met pas dans le bon sens, en fait, il va y avoir une pollution, même quand la lumière est éteinte. Et des fois, juste de changer ça, eh ben, ça fait une grosse différence sur le sommeil. Voilà. Et pour savoir si c'est dans le bon sens, parce que c'est pas marqué sur les prises, utiliser un stylo testeur de tension, ce qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, ça coûte une dizaine d'euros, et on regarde si après l'interrupteur, une fois éteint, il y a encore du courant. Donc en gros, le stylo, il va s'allumer, il va piper, etc. Si c'est le cas, on change le sens de la broche, on inverse la prise, et souvent, bah ouais, et ça suffit.
Et ça, là, on ne nous le dit pas quand on achète une lampe de chevet.
On ne nous le dit pas, effectivement. Et ça fait, en fait, c'est des choses toutes bêtes, mais quand je le montre, il y a des gens, voilà, c'est très concret.
Oui. Ok, donc tu fais ça, tu expliques ça en visio.
Oui, ça, c'est des choses que je fais aussi.
Ok, et puis tu fais aussi des conférences.
Oui, mais notamment au salon à Florac, par exemple.
Alors, tu étais là pour la deuxième édition.
Oui.
Là, pour la troisième, tu es inscrit et tu auras une conférence
aussi.
Tout
à fait, voilà.
Alors, chers auditeurs, si le sujet vous intéresse et que vous voulez prendre soin de votre maison et de vous au passage, eh bien, bienvenue au salon pour rencontrer Nicolas sur son stand ou l'écouter lors de sa conférence. Alors, parlons justement de ce salon. Tu as été présent pour la deuxième édition l'année dernière, en novembre 2025. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ? Comment tu as vécu le salon ?
Moi, j'ai adoré le salon. C'était un beau salon avec une belle énergie, ce qui n'est pas toujours le cas des fois sur le salon. Là, il y avait vraiment des gens de qualité, des échanges de qualité. Les exposants étaient chouettes aussi. Les organisatrices, j'ai beaucoup aimé la façon dont elles l'ont amené. J'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je reviens cette année.
Ah ben, c'est avec plaisir qu'on t'accueille. Et les organisatrices sont ravies de ton retour. Cette année, sur le salon, on grandit, c'est un jour et demi au lieu d'un jour, et il y aura aussi un pôle animal. Du coup, je voulais te demander, est-ce que la géobiologie et le Vastu Shastra, ou est-ce que le lieu, il influence aussi les animaux ?
Oui, et en fait, souvent, quand j'arrive sur un lieu, je demande aux gens s'ils ont des animaux, des chats, par exemple. Et les chats, les endroits où ils se mettent souvent, c'est des endroits qui sont plutôt perturbants pour l'humain, par exemple.
Ils soignent.
Voilà, et ça se vérifie souvent. Et c'est vrai que la façon dont les chiens, enfin, les animaux se comportent souvent, c'est très fort. Par exemple, moi je me souviens avoir travaillé sur une maison où le chien, depuis qu'il est arrivé, il tremblait tout le temps, il se mettait la table. Et donc là, il y avait des phénomènes un peu subtils à travailler. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, pouf, le chien a retrouvé un comportement tout à fait normal. Mmh. Voilà. Donc oui, ça influence évidemment. Ils n'ont pas de filtre, hein, donc ils sont très sensibles à cet endroit-là. Et d'ailleurs, quand on fait un travail sur l'habitat, ça peut les perturber un peu. Des fois, alors c'est rigolo, des fois j'ai des animaux que je ne vois pas dans toute la journée, qui vont sortir carrément de la maison et mettre un peu de temps pour se réadapter à un nouvel environnement. Et puis des fois, par exemple, c'est arrivé un chat qui me précédait. C'est-à-dire qu'avant que j'aille dans les pièces, c'est lui qui me guidait, quoi, pratiquement. Donc il y a vraiment, toujours très intéressant de voir cette relation avec des animaux avec l'habitat et avec ces phénomènes-là.
Souvent, ils sentent bien plus. C'est beaucoup plus fin que nos ressentis à nous.
C'est ça.
Alors tu sais, Nicolas, mon leitmotiv, c'est la joie. Et dans cette émission, j'aime demander aux invités comment fais-tu toi pour cultiver la tienne ?
C'est une bonne question. Oui, c'est important de cultiver la joie. Moi, après, j'ai une pratique, par exemple, au quotidien de méditation. Donc, c'est des pratiques aussi intérieures qui m'aident aussi à retrouver, parce que pour moi, cette joie, elle est en nous, elle est à l'intérieur. Donc, il s'agit juste simplement de se reconnecter à quelque chose qui est en soi. Donc, c'est ces moments de calme, de prendre soin de soi-même. En fait, c'est aussi une façon de cultiver cette joie à l'intérieur. Ouais.
Exactement. Alors là, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur pont. Justement, au salon en novembre 2026, vous pourrez venir rencontrer Nicolas et vous pourrez aussi participer à Élan de joie. C'est une expérience qu'on va vous inviter à vivre pour retrouver la joie en rencontrant votre enfant intérieur. Est-ce que tu comptes y participer, Nicolas ?
Là, je crois que je n'ai pas le choix.
On a toujours le choix.
Non, avec plaisir.
Ok. Alors, si je reprends, Nicolas, il vous accompagne pour faire alliance avec votre maison, avec votre habitat ou votre local professionnel. Que vous ayez des enfants ou des animaux, ça fait du bien à tout le monde. Soit en géobiologie classique, où il arrive avec ses appareils et il vous transmet des informations pour que vous puissiez faire des changements et mieux dormir, par exemple. Soit vous avez envie d'aller plus loin et vous avez un lien avec la spiritualité. Et là, je vous invite à essayer le Vastu Shastra, qui permet à votre maison d'élever sa fréquence vibratoire. Est-ce que j'ai bien résumé ?
C'est bien, tout va bien.
Et puis, vous pouvez aller voir son site internet. On remettra tout sur le site de la radio, parce qu'il fait aussi des conférences en visio et des ateliers. Et les ateliers en présentiel, si vous voulez vous initier à la géobiologie et au Vastu Shastra. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Nicolas ?
Non, merci pour tout. Et puis, si jamais vous voulez suivre aussi mes actualités, je suis sur Instagram, sur GeobioNico. Voilà.
On mettra toutes les informations sous l'émission. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, à très bientôt sur le salon.
Merci, à bientôt.
On se quitte en musique avec une nouvelle chanson que Nicolas a choisie.